Oui, bonsoir. J'ai pas préparé grand-chose avant de venir parce que je ne sais pas comment ça allait se dérouler, donc c'est un peu une improvisation. Et je vais d'ailleurs rebondir sur la notion de temps, parce que l'éthique pour le médecin, c'est une affaire de temps. En tant que médecin libéral, on est confronté au suivi de patients dans la durée. À l'hôpital, on les voit dans des bouts. On les voit d'ailleurs de moins en moins, puisque les durées d'hospitalisation sont de plus en plus courtes. Par contre, nous, en médecine libérale, on est de plus en plus à les voir longtemps. Et je dis maintenant parce qu'il y a de moins en moins de médecins. Donc même les patients qui voulaient avant, qui pouvaient changer de médecin en disant qu'ils n'étaient pas contents de notre service, sont pratiquement obligés de revenir nous voir. Et donc cette notion de temps prend vraiment de plus en plus d'importance. La notion de stress également, extrêmement importante parce que les médecins sont. Je vais faire juste un petit rappel parce que je ne suis pas ici porte-parole de tous les médecins généralistes. Il faudrait voir vraiment. Chaque cas est vraiment difficile et particulier. Moi, je suis médecin installé en ville il y a une trentaine d'années. Alors, je quitte la faculté comme beaucoup avec mon diplôme et mon serment d'Hippocrate éthique que je n'avais pas vraiment lu avant et je n'avais pas d'ailleurs pesé tous les mots à leur juste valeur. Et puis, on se retrouve à exercer. Dans un contexte, il y a une trentaine d'années, il y avait beaucoup de médecins installés. Hein. C'était vraiment une. Je me suis installé à Lille en même temps que ce médecin. C'est dans le même quartier. Il y avait 10 installations pratiquement. Donc on s'est battu contre SOS Médecins avec l'urgence, avec pas tellement d'ailleurs l'appui du SAMU qui était plutôt favorable à SOS Médecins. Donc on s'était battu pour essayer de survivre parce qu'il y avait cette notion de prix de la vérité. Quelque part, c'est l'éthique, c'est bien gentil, mais il faut pouvoir en vivre. Et le soin, quand on dit c'est vous le docteur, etc., bon, il faut quand même avoir derrière une rémunération. D'ailleurs, je me rappelle comme ça, le premier patient, c'était une patiente qui, je pense, s'est passé 3 heures de consultation avec elle, qui avait de gros soucis. Elle avait quitté tous les médecins du quartier, était venue me voir. Et puis, à l'époque, c'était les bons jaunes. Donc, quand j'ai dit à ma femme, on était endettés là sur le plan, on m'a dit voilà, j'ai fait une consultation pour la journée, était un peu inquiet sur l'avenir. L'avenir professionnel. Donc, c'était déjà un début de stress. Ensuite, à Lille, il y a eu l'arrivée. Je circuite, mais les grandes villes ont ce pouvoir un peu d'être en avant-garde, malheureusement, surtout au niveau de la psychiatrie, de l'arrivée de la massive de la drogue et la toxicomanie, qui a changé complètement la donne au niveau de l'éthique. C'est-à-dire que les Américains avaient connu ça, avec notamment le burn-out qui avait été décrit dans les frais cliniques aux États-Unis. Des médecins psychiatres qui craquaient devant les patients qui les arrivaient absolument pas à suivre. Patients toxicomanes, des jeunes toxicomanes qui voyaient carrément s'enfoncer malgré leurs soins, etc. Donc il y avait ces phénomènes de chandelle qui s'éteignaient, qui a prédonné le concept de burn-out. Et à Lille, on a vu ça arriver très tôt, en fait, hein, avec d'ailleurs une association dont je fais partie, qui est Généraliste et Toxicomanie, qui s'est battue pour la promotion de la mise en place de la méthadone, ce qui n'était pas du tout évident d'ailleurs, parce que. La plupart des médecins avaient une attitude assez opposée par rapport au traitement de substitution, en disant on ne va pas aller dans le sens de la toxicomanie, on va pas. C'est vrai que, encore une fois, ces notions d'éthique, qui pour moi étaient longtemps confondues avec la déontologie, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez, on a une déontologie professionnelle les plus importantes. Il y a maintenant des comparatifs de déontologie qui se font au niveau textuel. On compare le nombre de mots. Dans les déontologies, et ceux qui auront le courage d'aller sur le site du Conseil de l'Ordre verront que notre déontologie, c'est déjà pas mal, en fait. Hein. Donc, si on se contente même sans faire d'éthique à notre déontologie, on est déjà quelque chose d'assez important à cultiver. Donc, cette déontologie, qui est souvent je veux dire, le quotidien du médecin, se présente sous la forme du devoir, en fait, avec un devoir permanent du soin. Qui s'impose à nous et qui s'impose, je veux dire, pas seulement à nous, mais aussi aux soignants. Et on en sent souvent maintenant, d'ailleurs, les soignants qui soient installés d'ailleurs en libéral, qui soient kinés, infirmiers, je veux dire, avoir les mêmes problèmes finalement de déontologie, c'est-à-dire comment mettre un terme à cette demande incessante du fait de la crise économique qui fait qu'il y a de plus en plus de demandes et moins en moins d'offres et de services, et une contrainte budgétaire qui est de plus en plus importante. Il y a aussi une autre révolution qui est arrivée dans notre vie, c'est l'arrivée des usagers. Le concept même d'usager qui n'était pas du tout quelque chose pour nous de familier. Au contraire, ont véhiculé un peu une notion que le médecin, un peu sous le règne des Lumières, était sachant, avait tout le pouvoir et savait tout. Et donc le patient était patient, c'est lui qui attendait. Et vous savez comme moi que c'est un concept qui était importé, surtout avec l'arrivée du sida, en fait, où les patients disaient que rien ne pouvait se passer les concernant sans eux, ce qui a donné aussi le concept d'empowerment, en fait. Et je me suis dit très tôt que plutôt que lutter et essayer d'avoir une espèce d'attitude très personnelle partagée par quelques collègues en disant on va essayer de vivre à l'ancienne et puis on va essayer de tenir comme ça jusqu'à la retraite, il vaut mieux travailler en fait en commun avec les usagers pour justement diminuer cette part écrasante du devoir en fait. Hein. On a un professionnel de l'éthique dont je recommande le livre parce qu'il fait vraiment la part des choses. En plus, les livres de médecins sont rares sur l'éthique. Souvent, c'est des bouquins de philosophes qui ont tendance à avoir une vision extrêmement philosophique, donc très rationnelle, qui repose essentiellement sur le langage, en fait. Et nous, on est confrontés à des corps. Il n'y a pas que du langage. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'exposé sur le stress parce que ça montre vraiment l'importance du corps dans la relation, en fait. L'importance du stress, en fait, qui est vraiment l'expression au-delà de la biochimie, hein, je veux dire. Il y a beaucoup de choses à dire et que les philosophes ont du mal à intégrer dans leur concept. Alors même si effectivement Kant a mis la barre très haut avec son commandement, sa loi morale, en fait, ça devient pratiquement un exercice impossible, ce qui fait qu'on est confronté quotidiennement à ce tiraillement du désir d'une vie accomplie que souhaitait Paul Ricoeur en parlant de l'éthique. Et puis, en rentrant chez soi, on se dit, ben, finalement, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire? Est-ce que j'étais vraiment éthique dans ma journée? D'ailleurs, c'est une question qui se pose tellement peu que j'en parle ici devant vous, mais je suis pratiquement avec mes collègues. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais, sous peine de se faire insulter très rapidement. Parce que de quoi tu parles? On ne comprend rien. Je veux dire, c'est un concept assez flou. Et je suis très, très content qu'il y ait je ne vais pas dire un regain, parce que je crois que ça soit une reprise un petit peu par la Fédération de Recherche de ce concept qui est hyper important parce qu'il y a encore une notion de liberté que ne contient pas le terme de devoir, en fait, qu'on a tous et qu'on partage tous en tant que soignants. Et je voudrais juste terminer par une vignette clinique en soulignant encore une fois l'importance du rôle des usagers, parce qu'en fait, le médecin traitant est confronté aux familles depuis très longtemps, aux familles de patients, avec souvent une réponse très très difficile. On ne peut pas les écarter. Il fut un temps où la psychiatrie repoussait. Je ne sais pas si ça se pratique encore, où on supprimait le coup de téléphone avec les familles. Enfin, il y avait vraiment une rupture avec les familles. Ce qui fait que les patients qui étaient en difficulté se retrouvaient seuls par rapport avec le psychiatre et les familles étaient un peu isolées. Donc, avaient du mal à se faire entendre et à se défendre. Et quand on s'occupe de patients, notamment schizophrènes, on se rend compte que quand on fait le score EPIS, on se rend compte que malheureusement, il n'y a pratiquement que leurs familles qui sont là autour d'eux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de. Professionnellement, il n'y a pas de relation. Enfin, c'est des gens qui ont souvent coupé la relation avec un entourage. Donc, en dehors de la famille et éventuellement du médecin traitant, qui s'occupe encore, s'il est encore médecin de famille, les relations sont relativement minimalistes. J'étais d'ailleurs très content d'être interviewé tout à l'heure par l'association d'Entonnoir, parce que ça, c'est des choses qui aussi, enfin, des initiatives qui sont tout à fait favorables à faire avancer quelque part le monde des usagers vers l'espèce d'autonomisation. Ce qu'on retrouve aussi avec les nouveaux techniques telles qu'on les a dans l'éducation thérapeutique. C'est pas le sujet, parce que sinon, l'éducation thérapeutique, je pourrais en parler plus longuement, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais la création de maisons des usagers, le fait de voir des patients qui se prennent en charge, les associations d'entendeurs de voix dont vous avez peut-être entendu parler également, qui sont également extrêmement... d'ailleurs, c'est assez impressionnant quand on voit des gens comme Ron Coleman intervenir, les gens qui arrivent à se prendre... à prendre en charge des pathologies extrêmement lourdes. C'est de nature à diminuer un peu le stress du médecin, en fait, hein, et à faire du médecin un allié dans le cadre d'une alliance thérapeutique. Donc la vignette clinique, le mot vignette, hein, c'est une illustration. Donc on a reproché aux vignettes cliniques d'aller dans le sens de celui qui la propose. Donc c'est pas du tout le but, parce que je vais vous laisser un peu sur une énigme. Je soigne une patiente, je vais l'appeler Madeleine, que je soigne depuis une trentaine d'années, qui est sur une péniche, parce que je suis pas loin de la Dole, donc je soigne pas mal de mariniers. Et puis, elle vieillit, elle devient, son mari décède, elle vit très bien sur sa péniche, hein, une péniche qui reste à quai. et elle commence à avoir des signes de démence qui s'installent. On étiquette maladie d'Alzheimer. Et là, je commence à voir depuis 3 ans, 4 ans, en fait, la famille qui commence à me dire c'est plus possible, on ne peut plus vivre tout ça, parce qu'il faut voir la vie des mariniers. Ils sont sans cesse en déplacement. Quand leur mère téléphone en disant « faut que tu viennes vite », ils sont obligés de prendre leur voiture, débarquer leur voiture de la péniche, faire la route, faire une cinquantaine de kilomètres, et puis arriver devant leur mère qui leur dit « bah non, je t'ai jamais appelé, ça va très bien », etc. Enfin, et souvent, dans ces cas-là, c'est le médecin qui est appelé en disant « faites quelque chose, ça ne peut pas durer, c'est impossible, elle va tomber dans l'eau ». En plus, c'est vrai, si vous êtes déjà allé sur une péniche, c'est très, très étroit, en fait. On imagine en hiver, et la dame en question, elle lui dit « écoutez, je suis né sur une péniche, je vais mourir sur ma péniche ». Donc, on est tout à fait dans l'éthique de vie de la patiente. Et finalement, devant la pression, j'avais mis des infirmières à domicile, des soignants à domicile. Et on peut d'ailleurs mesurer la souffrance des soignants, parce que les soignants se faisaient insulter, parce qu'ils faisaient la toilette tous les jours. La patiente ne voulait pas se laver en disant qu'une fois par semaine, c'était largement suffisant. L'infirmier qui vérifiait le réfrigérateur et qui disait que pratiquement tout était acheté parce que la patiente ne mangeait pas. Enfin, donc il se faisait insulter. Donc les patients, le personnel soignant, enfin les paramédicaux qui venaient autour d'elle étaient agressés par la patiente. Donc je finis par la faire hospitaliser dans un système un peu d'hospitalisation intermédiaire, en fait, de manière à lui faire accepter l'idée d'une maison de retraite. Donc finalement, grâce à l'intervention de l'équipe gériatrique, gérontologique, parce qu'à Lille, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'équipes qui peuvent intervenir, ils interviennent et elle est effectivement emmenée dans un, pas très loin d'ici, je ne vais pas dire, dans un service de gérontopsychiatrie qui permet de faire le lien, en fait. Et puis j'apprends 3 jours après qu'elle est décédée. Elle est décédée pourquoi ? Parce qu'un autre patient l'aurait confondu avec un militaire allemand de la guerre et lui a donné une claque. Elle est tombée, elle a eu un hématome extradural et elle ne s'en est pas relevée. Alors j'ai eu, quelque part, c'est là où je parle d'un débat éthique, parce que c'est entre la décision de cette femme qui voulait vivre sur sa péniche toute sa vie, terminer sa vie et puis à la limite peut-être décéder en glissant ou en tombant. J'aurais peut-être eu effectivement toute la famille qui me serait tombée dessus en disant « Docteur, on vous l'avait pourtant bien dit, il fallait l'hospitaliser avant, etc. » Et puis finalement avoir cédé à la pression de la famille et puis l'avoir décédé dans cette situation, finalement tout le monde s'est posé des questions et j'ai pas de réponse à donner. Mais ça fait partie un peu vraiment de la différence entre la déontologie et l'éthique, c'est-à-dire on a bien fait son travail sur le plan professionnel, puisque quelque part je peux dire... Moi, j'ai passé le relais et puis je ne peux pas non plus en vouloir à l'équipe médicale parce que vous savez, quand vous allez dans les services de gériatrie, en fait, même si on met un patient et un soignant derrière, c'est pratiquement impossible d'être là tout le temps, 24 heures sur 24, en train de les suivre. Donc, il y a une espèce d'impossible, enfin, de tension extrême au niveau de ce qu'on voudrait... au niveau de terminer une vie, se dire partir en retraite en disant ben, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait mon boulot. Et je suis sûr que tous les médecins qui sont ici, même tous les soignants, auraient des histoires comme la mienne en fait, à raconter. En fait. Donc je voulais juste terminer sur cette interrogation que l'éthique permet, c'est peut-être ce qui nous différencie encore de la machine. Peut-être, me suis dit, j'étais par rapport à votre ouvrage, par rapport effectivement aux avancées de la technologie, je ne suis pas sûr qu'un jour les machines ne vont pas effectivement nous avoir des éthiques à elles, en fait. Donc on ne sait jamais. Moi, je pense que l'avenir est aussi à la recherche, notamment l'avancée des neurosciences, on voit avec les recherches sur le stress, avec... et si la psychiatrie peut recoller quelque part, parce qu'elle a été à un moment un peu désarimée du reste des spécialités, on parlait avec le professeur Thomas en fait de l'avenir des patients schizophrènes qui est beaucoup moins sombre que celui qui était envisagé avant. En fait, je pense qu'il y a des avancées au niveau de la psychiatrie, une prise en compte de la psychiatrie et surtout une immixtion de la psychiatrie dans la société. De part des initiatives comme le CP2A, par exemple, qui à Lille nous rend énormément de services, en fait, les centres de jour, en fait, les CMP, enfin, tout le fait que les psychiatres sortent de l'hôpital, et puis du coup, sont même confrontés à des réalités que nous connaissions bien en tant que généralistes, mais on n'avait pas leurs outils, en fait. Donc je pense vivre à la collaboration entre nos deux professions. Merci.